Pascal Claude, on parlait il y a un instant des nouvelles applications pour smartphones. Ce matin, dans Connexion, on s'intéresse aux ondes GSM.
Oui, faut-il éloigner les enfants des ondes GSM? La question est en débat. 02 737 33 33, vous réagissez maintenant. Et nous vous accueillons en direct dans un instant.
Très belle journée. Il est 8h34, voici Connexion.
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 Vos enfants sont-ils branchés, connectés à vous, peut-être, via le GSM que vous leur avez offert? En tout cas, un projet d'arrêté royal invite les plus jeunes à ne pas s'en approcher, à ne pas être en contact direct avec les téléphones portables. Il est même question d'interdire à la vente les GSM spécifiquement conçus pour les enfants. Faut-il les protéger des ondes GSM? Faut-il s'en inquiéter de ces ondes GSM? Écoutez André Van der Voorst, expert en ondes électromagnétiques.
On manque, depuis déjà un bon bout de temps, on manque grandement de prudence. Notamment parce que les effets à long terme, on n'en connaît juste rien.
On manquerait donc de prudence. Faut-il du coup éloigner les enfants des ondes GSM, voire les priver de téléphones portables? Nous construisons le débat ensemble depuis hier soir. Et la discussion se poursuit sans plus traîner sur les réseaux sociaux, à la fois sur la page Facebook La Première Connexion, que nous vous invitons toujours à rejoindre d'ailleurs, et puis sur Twitter via le mot-clé Connexion. Vous intervenez enfin via le 02 737 33 33, 02 737 33 33. Et c'est Benoît Loup qui est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct et en duplex depuis nos studios à Liège. Vous êtes expert scientifique indépendant en environnement électromagnétique et directeur général du bureau Études et Vie. Les citoyens de Connexion sont en dialogue avec vous ce matin et dans un instant. Avant de leur laisser la place, la parole, votre expertise en version très concentrée, vous avez 30 secondes pour répondre à la question en débat. Je vous la rappelle, faut-il éloigner les enfants des ondes GSM? C'est à vous, Benoît Loup.
Eh bien, je suis pour un appel de prise de conscience ou d'éveil de la population, dans la mesure où il est temps, à ce stade, 20 ans de recherche derrière nous, sachant que les portables et les GSM ont commencé à faire leur apparition autour de 1994 sur le marché. Il est temps de faire de la prévention, de l'information, d'éduquer à la fois les enfants face à leurs responsabilités, les parents de ces enfants dans les écoles, les hôpitaux pédiatriques. Il faudrait également former les médecins pour qui puissent diagnostiquer et prévenir de symptômes liés à l'exposition chronique de jeunes enfants aux ondes GSM de leurs parents ou eux-mêmes des appareils qu'ils ont utilisés. Voilà ce que je pense. Mmh. Donc, entrer dans une véritable connaissance encadrée et essayer quelque part de ne plus faire en sorte à ce que des jeunes, trop jeunes, soient technodépendants de ces technologies sans fil.
La prévention et information, les deux mots-clés de votre intervention. Benoît Loup, vous êtes notre invité ce matin.
Pascal Claude.
Je peux chercher. Connexion. Sur le web.
Faut-il éloigner les enfants des ondes GSM? Premier coup d'oreille sur notre répondeur maintenant avec ces deux premiers messages.
Oui, bonjour, Dominique de Bruxelles. La réponse est évidemment oui. Je dois d'ailleurs être sidéré de l'inconscience, et j'espère inconscience par ignorance, de nombreux parents qui offrent des GSM à des enfants qui n'en ont absolument pas besoin. Alors que l'on sait quand même que c'est dangereux pour tout le monde. Et je dirais que ce principe de précaution non seulement s'appliquerait aux enfants, mais aussi aux adultes, qui devraient peut-être être un peu plus réfléchis dans l'usage immodéré de leur GSM. Voilà, bonne journée, au revoir.
Bonjour, Serge de Namur. D'abord, concernant l'éventuelle nocivité des ondes GSM, même si globalement le concept du principe de précaution, c'est on va dire difficilement discutable, je me demande si on n'est pas en train de donner petit à petit dans une espèce d'hygiénisme comme ça, qui aurait comme effet pervers de fragiliser les enfants. Il faut tout de même se rendre compte à un moment que si un organisme n'est jamais attaqué, ben, il n'aura aucune raison de mettre en route ses mécanismes de défense. Et donc, à force de vouloir éviter les risques, eh bien, on peut craindre que l'être humain ne se transforme petit à petit comme ça en petites choses bien trop fragiles. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.
Ces deux premières interventions, Serge, que vous venez d'entendre, est prof et il a participé au débat sur Twitter avant de nous laisser son message hier soir. Benoît Loup, est-ce que nous ne sommes pas en train de tomber dans ce que Serge appelle l'hygiénisme?
Oui, pour moi, les ondes électromagnétiques et la manière de vivre avec font partie de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, notre environnement invisible, autant que le fait de s'alimenter correctement, de pratiquer une activité sportive, de même que de s'exposer de manière régulière à des ondes électromagnétiques, que ce soit celle d'ailleurs de l'électricité qui est beaucoup plus connue que celle des hautes fréquences depuis déjà plusieurs décennies, je pense que l'on a intérêt aujourd'hui à repenser un petit peu notre environnement quotidien, je dirais depuis la chambre à coucher jusqu'à l'environnement professionnel et de même même l'usage du téléphone portable. Je parle du téléphone sans fil et du GSM. Les technologies sans fil envahissent énormément nos habitations et nous sommes dans des situations d'électrosmog qui, quelque part, ne sont plus soupçonnées comme pouvant être des facteurs de stress ou de développement de maladies chroniques.
Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que le GSM est dangereux pour la santé ?
Oui, je pense qu'au même titre que le tabac, il y a même des expositions passives du GSM et on sait que la barrière sanguine cérébrale, donc qui est constituée de capillaires autour du cerveau, peut être beaucoup plus perméable à la pénétration de substances chimiques présentes dans le sang au travers d'études menées tant en Suède qu'en France depuis une dizaine d'années sur des modèles de rats. Enfin, ce ne sont pas des modèles, ce sont plus précisément des études in vivo. Et bien là, on soupçonne des interactions importantes où des substances peuvent finalement détruire certains nerfs les astrocytes au niveau du cerveau. Et donc, il faut absolument réduire l'exposition et apprendre à moins mal utiliser cette technologie, à les gérer davantage par l'information.
Uranus Nix sur Twitter écrit « J'ai pris le temps de lire les publications de Benoît Loupe. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas pro-GSM. » Uranus Nix qui ajoute encore « Aujourd'hui, on a 20 ans de recul, ça vous nous l'avez dit aussi tout à l'heure, sur les effets du GSM. Et il dit « Aucune étude ne prouve la nocivité. Si la nocivité tant criée par certains était avérée, nous aurions dû connaître une explosion de cancer et de tumeurs. »
Alors, il ne faut pas oublier que le cancer est multifactoriel et qu'il y a des tas de facteurs et cofacteurs. Le facteur génétique, le facteur alimentaire, l'hygiène de vie au sens activité sportive ou non, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça sont des facteurs qui peuvent intervenir dans la réduction ou au contraire la progression du cancer. Donc les ondes électromagnétiques viennent s'ajouter à la liste comme copromoteurs ou promoteurs dans le développement de certaines tumeurs. Et donc, c'est une raison supplémentaire puisque c'est invisible, qu'on ne peut pas le percevoir habituellement par nos sens, sauf des personnes dites allergiques ou souffrant d'un syndrome d'hypersensibilité aux ondes, ça existe, il y en a de plus en plus, et ces gens ne sont pas diagnostiqués, et ils sont un peu un signal d'alarme, d'alerte en tous les cas, par rapport à notre société, sachant qu'on n'a absolument rien pour au niveau médical, pour diagnostiquer et traiter ce genre de pathologies qui apparaissent de plus en plus. Je dirais que finalement, il est important vraiment de ne pas se voiler la face. J'entendais tout à l'heure qu'on parle de mécanismes de défense, exactement comme pour les micro-organismes ou les virus. Mais le corps humain, par rapport à des choses toxiques, que ce soit chimiques ou, dans ce cas-ci, physiques, n'a pas de système de blindage, d'écran qui puisse lui permettre de réduire son exposition à ces facteurs de puissance. Donc, penser ou croire que l'on va, en étant exposé de manière de plus en plus intense, indéfiniment à des rayonnements de haute fréquence, appelés également micro-ondes, penser que le corps va s'adapter indéfiniment, c'est faux. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que depuis 1950, l'exposition de l'homme aux ondes électromagnétiques a augmenté d'un milliard de fois.
Mais c'est vrai tout de même qu'il existe beaucoup d'études sur le sujet, hein, des études contradictoires. Est-ce que les connaissances scientifiques en la matière sont suffisantes ?
Oui, elles sont largement suffisantes. Il y a déjà au moins 10 ans que des études pointent du doigt l'augmentation en l'espace d'une durée de 10 ans d'utilisation du GSM au minimum. En deçà, on n'observe pas grand-chose au niveau du développement d'une tumeur. Pourquoi ? Parce que une tumeur demande parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans pour être présente dans l'organisme et qu'il y a une période de latence. Et donc, ces études se font sur le long terme. Mais maintenant, nous savons, alors que l'OMS elle-même, jusqu'en 2010, a plus ou moins nié au travers de l'étude Interphone l'existence de ces effets au niveau du développement de tumeurs, a retourné complètement sa veste en mai 2011, en reconnaissant par les dirigeants de cette même étude et les personnes qui ont travaillé là-dessus que les effets étaient potentiellement cancérigènes pour l'homme, en classant ces ondes de GSM, de téléphone sans fil et de Wi-Fi dans la catégorie 2B des produits potentiellement cancérigènes pour l'homme. C'est une grande avancée. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il ne se passe rien et l'on doit absolument adopter un comportement prudent.
André de Namur est en ligne avec nous. Bonjour à vous et bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous nous avez contacté ce matin pour nous dire que pour vous, les GSM, ce sont des armes de destruction massive.
Mais si on voit ça du point de vue épidémiologique et le nombre de personnes en France, pas loin de 60 millions de personnes en ont un, en Belgique je ne sais pas combien, mais ça doit au moins faire 5 à 6 millions de personnes, Dès lors que le GSM s'avère dangereux pour la santé, oui, effectivement, numériquement parlant. Alors, contrairement à ce que vient de dire le professeur Van der Voorst, on sait où on va, parce qu'il y a un ensemble d'études épidémiologiques indépendantes qui ont été menées depuis une quinzaine d'années, et ces études toutes convergent vers une même conclusion de nocivité, d'effet délétère de l'utilisation des GSM pour la santé, et en l'occurrence, pas seulement des enfants. On a quand même maintenant des personnes du Sérail comme le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue, comme Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, comme Madame Annie Sascour de l'INSERM, comme Marie-Claire Tricot de l'ULB, qui a fait une étude, elle, sur l'impact des GSM sur les protozoaires et sur les fourmis. Et donc, tout cela converge également vers de mêmes conclusions.
Merci, André, pour votre intervention.
Je voudrais quand même signaler que nos auditeurs pourront trouver sur le site teslabel.be, donc de l'unité de mesure Tesla, donc TESLABEL.be, toutes les informations, toutes les études épidémiologiques qui sont reprises donc de manière synthétique avec des vidéos très intéressantes leur permettant de comprendre la nocivité justement de l'utilisation des GSM. Comme le faisait très justement remarquer Benoît Loupe, le GSM est un élément, mais il y a encore pire en termes d'exposition chronique aux champs magnétiques de haute fréquence, ce sont les DECT, les téléphones portables d'intérieur,
d'accord,
qui fonctionnent
merci.
24 heures sur 24.
Merci à vous, André, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, c'est vrai que les téléphones d'intérieur sans fil, il faut aussi s'en méfier, Benoît Loupe.
Ben, en réalité, ce sont des GSM déguisés. Vous n'oubliez pas qu'il y a une station de base qui rayonne 24 heures sur 24 dans la maison pour trouver votre combiné, sauf les modèles appelés ECO-DECT, mais je m'en méfie également parce que on fait miroiter à la population que quand le téléphone n'émet pas et que l'on n'est pas exposé, on est protégé, mais n'oubliez pas que quand il émet autant pratiquement qu'un GSM dans la tête. En tous les cas, il augmente l'exposition déjà du GSM à d'autres natures de micro-ondes, mais très très proches en termes de fréquence et d'effets sanitaires ou avérés au niveau cellulaire, d'effets biologiques. Ces expositions sont très importantes. Un téléphone portable d'intérieur appelé DECT a une portée de 300 mètres. Pour qui ? Pourquoi ? Donc la puissance utile était tout à fait disproportionnée par rapport à nos besoins.
Arrêtons-nous un instant sur le projet d'arrêté royal. Est-ce que vous soutenez les mesures qu'il contient, et en particulier cette interdiction de vente des GSM spécialement conçus pour les enfants ?
Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas pour une politique d'interdiction punitive, répressive, mais arrivé à un certain moment, il faut encadrer véritablement la connaissance, et je pense que nos politiques doivent aujourd'hui absolument prendre leurs responsabilités. Bien entendu, il faut saluer les actions tout à fait constructives dans ce sens des eurodéputés comme Frédéric Ries et Michel Rivasi en France, qui est eurodéputé verte. Ouais. Mais par contre, vous voyez, dans cet arrêté royal, on dit déjà que la Commission européenne va analyser la conformité de cet arrêté royal en fonction des règles commerciales européennes. Bon, je trouve ça incroyable aujourd'hui de parler de conformité de lois qui sont censées protéger des gens de risques potentiellement nuisibles ou toxiques de l'exposition régulière à des micro-ondes émises par les antennes de GSM sous l'angle commercial et non sanitaire. Si on pose la question, comme on vient de l'entendre de manière très claire avec l'auditeur André qui vient de s'exprimer, si on posait la question à la population, un peu comme les Suisses le font à l'initiative populaire, on aurait probablement d'autres lois qui sortiraient de manière encore plus durcie que celles qui sont censés être en conformité avec des règles commerciales. Moi, je trouve ça quelque part anormal que tout soit systématiquement analysé en termes d'aspect commercial au niveau européen, ce qui n'est pas le cas au niveau du Parlement européen, qui lui, par contre, prend des positions beaucoup plus fermes déjà depuis au moins une vingtaine d'années.
On va jeter un coup d'œil à présent sur les nouvelles réactions que vous avez épinglées pour nous sur Twitter et sur Facebook, Marie.
Oui, beaucoup de commentaires anti-GSM ce matin. Je relèverai celui de Jessica sur Facebook qui dit qu'il serait plus raisonnable au nom du principe de sécurité de protéger nos enfants. Mais elle ajoute une question centrale. Qu'en est-il de la connexion Wi-Fi ? A-t-on seulement le droit de vivre avec moins d'ondes ? Francesco fait une suggestion. Les antennes devraient être obligatoirement partagées par tous les fournisseurs. On éviterait ainsi d'en avoir trop. Alors on a Pierre sur Matin Première PMBE qui lui prend le contre-pied. Est-ce Est-ce que le problème relève de la santé publique? Est-ce qu'il mérite tellement d'attention, demande-t-il? Enfin, plus sérieusement, est-ce que la classe politique n'a rien d'autre à faire en temps de crise? André, sur Twitter, relativise, lui aussi, ne mettez pas dans le même sac toutes les ondes, le Wi-Fi est infiniment moins dangereux que le GSM à 1 cm de la tête. Et Martin ajoute, la malbouffe tue à long terme plus d'enfants que les ondes actuellement.
Voilà pour ces nouvelles réactions. Qu'en est-il du Wi-Fi? Il faut aussi s'en éloigner.
Je pense que c'est une question aussi de sensibilité. Vous avez des gens qui ont des comportements en termes de stress qui en tous les cas ont constaté que le fait de travailler dans un bureau qui est exposé à un routeur qui émet ou un modem en système wireless, en système sans fil avec des antennes qui émettent en impulsion autour de 2400 MHz jusqu'à 2480 à peu près, eh bien on va avoir des ondes pulsées. La pulsation des ondes en fait ont des effets sur le système électrique du corps humain, les pulsations électriques du cerveau, du cœur, on le voit par électrocardiogramme par exemple, et bien ces impulsions, ces micro-ondes en impulsion, qu'on retrouve aussi d'ailleurs en partie dans la technologie GSM, sont visiblement par leur système de modulation beaucoup plus irritantes que si elles étaient comme
merci.
On a. Voilà.
Merci à vous.
Connexion. Le dernier mot.
Son cerveau chauffe depuis 15 minutes, non pas à cause de son GSM,
j'ai
mais
mal
parce
à la
qu'il
tête,
vous a préparé son dernier mot, mais dit c'est à vous.
Le dernier mot, c'est invisible, qui n'est pas visible, qui échappe à la vue, on ne perçoit pas par nos sens. Et ce dont on parle, c'est peut-être un mal invisible. On sait que c'est pas bon, on ne connaît pas les effets concrets, on a du mal à prouver la dangerosité de ces fameuses ondes. 20 ans de connaissances scientifiques et toujours ce débat, des vérités, des contre-vérités. Certains parlent d'armes de destruction massive. En tout cas, c'est de notre environnement dont on parle, de notre hygiène de vie, des ondes que l'on choisit d'utiliser avec les GSM. Mmh. Parfois, c'est imposé par d'autres comme le Wi-Fi. En tout cas, la prudence semble de mise. Alors, pourquoi les parents donnent un GSM à leur enfant? C'est qu'ils ne supportent pas d'être séparés de leur progéniture. Et grâce au GSM, ils ne sont jamais invisibles, leurs enfants. Toujours joignables en cas de pépin. La vie, c'est simple comme un coup de fil. Les parents sont rassurés à court terme, mais ils s'interrogent quand même à long terme. Qu'auront comme effet les ondes sur mon enfant? D'où ces prises de conscience. Notre invité le disait, il est temps de faire de la prévention et d'informer de manière très visible.
Mehdi Kelfat, merci à tous pour vos interventions. Merci également à vous, Benoît Loup, d'avoir été présent en direct depuis Liège ce matin. Bon mercredi à tous et rendez-vous tout à l'heure dans Sort Première et sur les réseaux sociaux vers 18h pour un autre débat.
À tout à l'heure, Pascal. Il est 8h50.